La Halte,
le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
Un podcast de Quartier Libre.
Agent Crawford pour La Halte. Est-ce que vous me recevez ? Ici l'agent Crawford. Tiens, La Halte. J'ai envie de vous dire, halte là.
Alors la ville d'Angoulême est plutôt, pour une ville moyenne, culturellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà c'est la ville de la bande dessinée, donc on a un gros événement qui s'appelle le festival international de la bande dessinée. Du coup, c'est un peu une carte de visite de la nef. Les gens, quand ils parlent d'Angoulême, c'est la BD. Donc grâce à ça, on a aussi la Cité internationale de la bande dessinée.
Déjà à ce moment-là, je me disais waouh, c'est ouf, j'aimerais trop travailler ici. Et voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis un peu acharné pour travailler ici.
Et ce qui m'avait surpris, c'est de voir des mamies vraiment avec les cheveux en bigoudi, là, avec un pétard à la main. Et ça a été une révélation. Ok. Et en fin de compte, ça a été un concert de folie, ouais. Parce que du haut de mes 14 ans, je rentrais dans ce temple musical et du rock de l'époque et je n'ai jamais quitté.
Le lieu, vous ne pouvez pas le voir là en podcast, mais du coup, ça vous donne une excuse pour venir parce que le lieu est vraiment très beau. Il y a des plantes partout, il y a des dessins partout. Le cadre est cool, en fait. Franchement, je pousse tout le monde à venir ici parce que c'est un endroit où on se sent bien, en fait. Dès l'instant où je suis arrivée ici, je me suis tout de suite sentie bien.
Après le lycée, tu pars parce que t'en as marre. Et en fait, après, tu reviens et tu te fais « Mais waouh, il se passe des trucs, en fait, ici, que tu voyais pas avant parce que t'étais trop jeune. » Et je pense qu'aussi, ça participe à l'effet aimant de la ville d'Angoulême.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau lieu, la Nef à Angoulême. La Nouvelle-Aquitaine regorge décidément de lieux historiques et la Nef en fait également partie puisqu'elle ouvrait ses portes au public en 1993, ce qui lui fera souffler en 2023 ses 30 bougies. La Nef est une ancienne poudrière construite en 1879 et laissée à l'abandon pendant quelques années avant qu'une équipe de 4 amis à l'origine de la création à l'époque du bar-concert Le Mazouing décide de s'en emparer pour ouvrir un temple de musique. Et comme toute bonne friche artistique, la Nef se situe dans une zone industrielle assez loin du centre-ville d'Angoulême. Mais après une bataille de longue haleine, une ligne de bus est désormais accessible. Et ce sont Baptiste, directeur adjoint et programmateur, et Alexandra, membre du comité d'usagers, qui nous parlent de l'histoire et qui nous livrent une petite anecdote autour de ce bus tant attendu.
Alors la Nef était une poudrière. Le lieu a été mis à dispo d'une association qui s'appelait Dingo en 1993 pour organiser des concerts. C'était une asso qui organisait pas mal de concerts en centre-ville d'Angoulême et dans différents lieux, mais qui n'avait pas de lieu attitré. Ils ont fait jouer pas mal de groupes rock alternatifs de l'époque, genre La Mano Negra, Asian Dub Foundation, tous les groupes un peu gros de l'époque, Noir Désir et compagnie. Et en 93, ils ont réussi à avoir une DSP, une délégation de service public, pour l'assaut, et avec une délégation de service public sur ce bâtiment pour pouvoir organiser des concerts dans une salle attitrée à l'association.
On a eu un projet en 2019, c'était d'avoir un arrêt de bus pour les écoles qui venaient parce que l'action culturelle est importante ici, en plus des concerts. Et on a milité en gros pendant 3 ans pour avoir un arrêt de bus digne de ce nom. Et il a été inauguré fin août 2022. Et c'est une grande réussite et moi j'en suis très fière avec mes amis de la Nef parce que on a fait tout ce qu'il fallait et on l'a redit, on l'a fait passer dans le journal local et j'allais même en réunion avec l'administration avec mon petit bus en carton pour qu'il se rappelle bien ma mission 1, avoir un arrêt de bus pour la Nef.
En plus d'être un lieu historique, la Nef regroupe un public, lui aussi historique, qui reste encore très fidèle et qui ont de belles histoires à nous livrer. Alexandra, Lionel, Philippe, Noé se plongent dans le passé avec nous.
Il y avait dans la configuration d'origine, pour entrer dans la salle, c'était un grand couloir, pas très étroit. Et il y avait des photos noires et blancs, dans des cas de 30-40 à peu près, où il y avait des petites lumières au-dessus. Et c'était des photos qui étaient faites à l'époque déjà par Dominique Lagnos ou Frédéric Pluviot, des photographes amateurs du coin. Et Dominique Lagnos, lui, a eu le privilège de faire plusieurs photos avec Bertrand Cantat. Il y en avait une grande qui était affichée là. Et pendant des années, elle est restée ici. Alors, bien sûr, je ne parle que de l'artiste. Et du coup, à l'époque qui était l'année de Tostaki, bah, du coup, là, ça a été pour moi une espèce de grande claque. Et on regardait ces photos-là, comme une icône d'église peut-être, ou je sais pas. Il y avait vraiment ce couloir qui était sombre avec ses photos en noir et blanc, juste les petites lumières au-dessus des photos. Elles étaient, ça faisait un espèce de cachet avant de rentrer dans la salle. C'était pas mal.
Oh, je suis incapable de donner une date précise, moi, mais c'était dans les années 90, au début de la salle, puis même un peu avant, parce que il y avait aussi un passé, bon, ça a un peu à voir, c'est-à-dire il y avait une petite salle, un café qui était sous le théâtre qui s'appelait le Mazoing, dont le directeur était celui qui est devenu le directeur d'ici, Jean-Louis Ménanteau, après. Voilà.
Alors moi, c'est Philippe Lafaille. Je ne travaille pas à la Nef, mais je suis un usager de la Nef depuis hyper longtemps. Je pense que c'est fin des années 90 où j'ai commencé à venir à la Nef. Je devais avoir 13 ou 14 ans. J'ai vu mon premier concert ici, Choc-Bord, le groupe. Et puis, en fait, c'est à peu près à la même époque où j'ai commencé à faire de la musique en groupe. Je suis venu à la Nef pour enregistrer les premières maquettes, le premier album de mon premier groupe. Voilà, donc j'ai un peu grandi avec le lieu. Alors du coup, le premier concert, comme je disais, c'était Choc-Bord, un groupe américain que j'adore. L'album, c'était pour l'album Test Orbiter, donc ça doit être 96 ou 97, un truc comme ça, je pense. Et on était plusieurs potes à être vraiment fans du groupe. On devait avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Et en fait, le groupe devait être en dédicace l'après-midi dans un magasin de disques qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Rockmania, qui était derrière le palais de justice. Et un des parents de mes potes, en fait, nous avait amené l'après-midi au centre-ville. On voulait, nous, faire la dédicace, sauf que le groupe était à la bourre ou peut-être avait un peu la flemme de faire ce truc-là, donc ils sont jamais venus. Et nous, après, on a bouffé en ville et puis on a été à la Nef à pied du centre-ville. Et puis, en fait, on est arrivé hyper de bonne heure, quoi. C'était encore les balances de la première partie. On avait attendu donc quasiment 2 heures dehors avant que les portes ouvrent. Et c'était le premier concert et c'était super, hein, vraiment un super souvenir.
Alors la toute première fois que je suis venu voir un groupe qui s'appelait ZXX à l'époque, et c'était vraiment magique comme soirée, j'étais trop content. Je venais d'arriver à Angoulême, j'étais en 3e je pense, un truc comme ça. Et après j'ai mis des années à revenir, et quand je suis revenu ici, en fait, c'était pour un concours avec un groupe qui s'appelle Lehman Brothers. Et on a gagné le concours, et du coup j'étais très content, et depuis j'ai noué des liens avec la salle, quoi. Voilà.
Quand on parle de la Nef, on passe par différentes périodes et plusieurs évolutions, à la fois dans son projet, mais aussi et d'abord dans son bâtiment. On parle d'une Nef 1, d'une Nef 2 et même d'une Nef 3 à venir dans quelques années.
Le bâtiment, c'est un bâtiment qui date de 1879, le bâtiment initial. Il était dédié à l'armée, c'était un stockage de poudre en fait, de l'armée. Et en fait, il a été investi dans les années 90 par des militants musique actuelle, à l'époque où justement les musiques actuelles commençaient un peu à s'institutionnaliser, à avoir des vrais lieux professionnels. Et donc ces militants en fait, avaient demandé aux pouvoirs publics locaux un lieu pour pouvoir organiser du concert et puis... plus tard, avoir des tuyaux de répétition. Donc ça, c'est la première existence du bâtiment, la Nef 1. La Nef 2, en 2005, c'est une extension beaucoup plus contemporaine, qui est d'ailleurs très bien mariée avec l'ancien, très agréable à travailler. Et cette extension sert justement pour tout ce qui est tuyaux de répétition, tuyaux d'enregistrement, bureaux, catering, etc.
Alors, il y a aussi, j'ai entendu parler d'une prochaine réhabilitation, une envie d'améliorer encore la Nef, d'avoir une version 3 de la Nef. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Ben voilà, c'est ce que je disais, c'est travailler sur les extérieurs, pour le coup, de la nef. C'est vrai qu'elle a été pensée à la base pour accueillir des concerts en intérieur et pour un public masculin entre 25 et 40 ans. Les usages ont évolué aujourd'hui, ce public a vieilli, ce public s'est féminisé, ce public s'est familiarisé. Donc on accueille pas mal d'enfants, pas mal de familles. Donc comment accueillir ça au mieux et puis dans un contexte un peu plus convivial, c'est-à-dire pas juste une salle froide et noire, travailler sur les extérieurs, proposer des animations, des concerts à l'extérieur. Et puis comme je disais, prendre en charge la question climatique aussi en proposant des espaces plus végétalisés avec des arbres qui sont des puits à CO2. Donc on va déjà travailler ça, effectivement, supprimer certains parkings pour en faire des espaces verts et des lieux où on organisera des choses. À l'intérieur, avoir un plus grand bar. Alors c'est une question économique, c'est aussi une question de convivialité parce que ça fait partie des musiques actuelles, hein, de boire un coup, d'être dans un endroit où on chaleureux. Un accueil aussi des personnes à mobilité réduite qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant à la nef, donc prévoir une plateforme dédiée dans la salle. Et puis aussi améliorer les conditions de travail des techniciens parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes de déchargement et de chargement qui sont un petit peu qui sont pas pérennes en tout cas et qui donc peuvent présenter certains dangers. Donc ce projet Nef 3 aura pour but aussi d'améliorer cette condition de travail.
Aujourd'hui, la Nef, c'est un projet artistique bien sûr, mais c'est aussi un projet où la médiation et l'accompagnement des artistes prennent une place très importante. On parle aussi d'un projet politique avec de fortes valeurs. Baptiste Desvilles, directeur adjoint et programmateur, et Laetitia Perrault, directrice administrative et culturelle, nous en parlent.
Alors la ligne éditoriale de programmation, aujourd'hui on va dire que voilà, on est dans une programmation assez éclectique. Après la Nef a une identité très rock depuis l'association Dingo. Enfin voilà, ça a été construit comme ça à l'époque parce que voilà, c'était une asso qui était fan de rock. Et puis je crois que c'était les musiques actuelles de l'époque étaient beaucoup plus rock qu'elles le sont aujourd'hui. Comme je le disais, il y a eu pas mal de changements de direction. On a eu pas mal de petits soucis aussi en termes de fédérer le public à une période pour diverses raisons. Quand on m'a nommé du coup directeur artistique, programmateur, j'ai souhaité ouvrir cette programmation à un maximum tout en essayant de se faire plaisir aussi, que ce soit moi ou que ce soit l'équipe. Et j'ai pas mal aussi consulté le public, des anciens, des nouveaux, les groupes locaux. J'ai pas mal fait un petit travail d'archéologue aussi, aller chercher avec qui la Nef bossait auparavant aussi, quel tourneur et quel booker. J'ai aussi fait pas mal de rendez-vous à cette époque, en 2016, au moment où j'ai pris le poste, pour essayer d'écrire un peu une trame de programmation et essayer de faire que les concerts ne soient pas simplement que des concerts, mais soient des événements à part entière. Et du coup, sur des esthétiques qui n'étaient pas forcément représentées à l'époque, essayer de créer des événements pour fédérer le public. J'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné, que ce soit en termes d'électro, de hip-hop, de musique du monde, de jazz, et bien sûr de rock au sens large du terme. Parce que on a aussi ouvert le rock aux musiques extrêmes, le métal, le hardcore, le punk rock. Moi, je viens de cet univers-là. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu porté et qui me motive aussi. Je trouve que c'est pas des musiques qui sont trop représentées aussi aujourd'hui dans les SMAC. Je trouvais qu'il y avait un petit angle à trouver là-dessus. Il se trouve qu'il y a des assos aussi à Angoulême qui gravitent autour de ces musiques-là. Donc je me suis aussi un peu... Enfin, moi, la Nef s'est un peu associée avec ces associations pour aussi créer des événements. Et là, de plus en plus, on le fait aussi avec d'autres associations dans différents styles musicaux. Et voilà, et c'est pour ça qu'on essaie de créer quelque chose d'assez éclectique dans les concerts qu'on propose, dans les événements qu'on propose. La programmation est composée, on va dire, en plusieurs temps forts. On a des temps forts autour de la scène locale, on a des temps forts autour des musiques hip-hop et électro, qui est notre temps fort Bisou. On peut avoir des temps forts autour des musiques du monde, où on fait des partenariats avec Musique Métis, enfin avec le festival Musique Métis. Là, j'essaie de créer des temps forts autour des musiques électroniques avec l'association L'Enfant Sauvage. On a créé un temps fort autour des musiques hardcore et punk rock avec une association qui s'appelle Backscratching, où on organise un événement là depuis 6 ans qui s'appelle le Day of Hardcore, qui devrait revenir en 2023. On est en train de plancher là-dessus. Ça, clairement, c'est un événement qu'on a créé en 2015, donc avant que je sois programmateur. Le directeur de l'époque nous a laissé un peu une carte blanche pour monter un événement et ça a plutôt bien fonctionné. On avait fait sold out. Du coup, on s'est dit qu'il fallait faire perdurer cet événement. Là, il y a eu 2 années de Covid. Du coup, ça a été hyper compliqué de remettre en place les choses. Mais là, on est en bonne voie pour recréer cet événement qui devrait se dérouler en 2023 cette année. Et voilà, pour le côté événementiel, c'est que voilà, il y a le côté concert, mais on fait plein de choses autour. Par exemple, sur le Day of Hardcore, il y a tout un côté avec des stands de tatouage. Il y a du skate, on monte un mini skate park dehors, on fait des animations. Enfin voilà, c'est transformer un lieu de vie, un lieu de concert en lieu vraiment festif aussi. Et tu viens pas juste consommer un concert, tu viens faire la fête toute une journée. On bosse beaucoup avec des auteurs et des illustrateurs locaux, des collectifs émergents, jeunes. On essaie de les impliquer dans nos concerts via la réalisation d'affiches, de sérigraphies, mais également aussi par le biais d'un petit collectif qu'on a monté qui s'appelle le Croquis Picture Show. C'est un collectif d'une 10-15 d'artistes, illustrateurs, qui viennent croquer les concerts en live. Et du coup, chaque année, on essaie de sortir une petite expo et de mettre en avant le travail d'un ou d'une illustrateur ou illustratrice sur une saison.
Alors aujourd'hui, le projet de la Nef, c'est un projet classique justement de scène de musique actuelle, donc ce que je disais, diffusion, création et action culturelle, mais confronté au même questionnement que ces lieux de musique actuelle qui commencent à avoir quelques dizaines d'années au compteur et qui doivent se renouveler et se réintégrer dans une forme de contemporanéité. J'entends par là que quand ils ont été créés il y a 20-30 ans, et c'était effectivement par des militants qui voulaient défendre la place des musiques actuelles, que ça soit légitimé, notamment auprès de l'État, puisque c'était une pratique, la première pratique populaire, mais ce n'était pas très légitimé dans les subventions, etc. Ça l'a été il y a 30 ans, donc ils ont beaucoup milité pour ça. C'était dans ce sens-là politique, et puis ça a été. Ça s'est institutionnalisé, puis ça a pris des modèles économiques aussi, et ça a un peu quitté ce côté militant et politique. Et aujourd'hui, le projet de la Nef, il a ce but de retrouver ses valeurs, réintriquer le politique dans un projet artistique. C'est pour ça qu'on parle de projet artistique et culturel. Maintenant que l'artistique est légitime, il faut justement se réintéresser aux questions qui fragmentent un peu nos sociétés, sur le social, sur l'économique, sur le climatique. Et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui avec l'équipe de la Nef, de se remettre d'accord sur ces valeurs et de dire comment on retravaille ça à partir d'un propos artistique. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, s'intéresser à la place des femmes dans les musiques actuelles. Effectivement, nous, on est un service public et on s'est rendu compte qu'on était un service public qui finançait des activités qui n'étaient occupées qu'à 87% par des hommes. Donc, il y a un problème d'égalité par rapport au financement public. Donc, voilà, ça, c'est un premier sujet qu'on va retrouver en transversalité dans la diffusion sur la partie concert, sur la partie accompagnement, sur la partie action culturelle. On va s'intéresser aussi à la crise climatique. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour améliorer les choses? Donc, travailler sur la mobilité des spectateurs, des artistes, travailler sur le lieu pour qu'il soit plus végétalisé, donc qu'il diminue un peu l'effet point chaud, parce qu'on est dans une zone industrielle très minérale. Donc, de contribuer peut-être à créer des endroits un peu plus doux, un peu plus confort, un peu plus ombragé sur l'agglomération. Sur la question énergétique aussi, évidemment. Voilà, donc en fait, ces projets politiques et citoyens, ils se retrouvent à l'intérieur des projets en eux-mêmes, mais aussi sur certaines actions fléchées. Encore une fois, le projet de Rolès Musicienne, où vraiment on travaille cette problématique de la place des femmes dans la musique.
Quand on parle de projet politique, j'étais ravie de voir pour la première fois une femme directrice depuis le début du voyage. Et ça s'est confirmé par la suite. Au bout de 13 visites de lieux, Laetitia reste la première femme directrice que je rencontre. C'est une véritable place aux femmes que nous propose la Nef. On retrouve cette question notamment dans l'accompagnement d'une étude intitulée « Les drôlesses musiciennes » menée par Tiffaine Pinville, qu'on a eu la chance de rencontrer également. Cette étude a été menée entre 2021 et 2022 afin d'observer le parcours des musiciennes en Charente, dans une période où le secteur musical se questionne sur la sous-représentation des femmes dans les pratiques professionnelles et amateurs, et on parle ici des artistes mais aussi des emplois liés au secteur culturel. On écoute Laetitia et Tiffaine nous en parler.
Donc Drolet, effectivement, c'est suite à MeToo, il y a eu pas mal de choses où on s'est un peu auto-diagnostiqué, auto-analysé dans le secteur en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait de ça, de la place des femmes. Et c'est à différents niveaux, évidemment, sur la question de la pratique artistique, mais aussi sur la question de la production et des professionnels. Moi, c'est vrai que, évidemment, ça me touche en tant que femme, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur. En 2005, on était 8 femmes directrices sur une centaine de SMAC. Aujourd'hui, on est 11. Donc, voilà. Quand j'entends dire que c'est naturel, que les choses vont mieux, non. Il faut être proactif. Il faut prendre les choses au bras-le-corps. Parce que là, en 17 ans hein, de carrière, j'ai vu les choses très, très peu évoluer. Quoi.
Alors, moi, je m'appelle Tiphaine Pinville. Je suis musicienne, je suis altiste et je dirige une compagnie de spectacle. J'ai régulièrement collaboré avec la Nef sur pas mal de projets. Depuis l'année dernière, je travaille à la Nef pour toute autre chose, parce que moi j'ai un doctorat en musicologie, spécialisé en sociologie de la musique même. Et du coup, Laetitia Perrault, la directrice de la Nef, est venue à ma rencontre pour mener une étude sur la place des musiciennes en Charente. Laetitia a très vite pris le pli de se dire qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose sur la Charente et notamment mener une étude. Voilà, ça c'est, on a commencé à travailler dessus en mai dernier. Puis voilà, on a demandé un financement à la DRAC dans le cadre du plan de relance et puis on a commencé au mois de septembre. Alors cette étude, elle prend la forme comme une étude scientifique, plutôt sociologique, c'est-à-dire que on a un sujet qui est la place des femmes sur scène et dans les studios sur un territoire qui est la Charente. Très rapidement, on a voulu s'écarter du procès, on va dire, entre guillemets, de se dire « Ah, les programmateurs et les programmatrices ne programment pas assez de femmes ». Procès, c'est peut-être un peu fort, mais c'est-à-dire que souvent, on se dit « Tiens, il faudrait qu'on programme plus ». Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de représentativité. Mais nous, on s'est quand même dit « Mais ça vient d'où, en fait, le manque de femmes ? Est-ce que réellement, il y a des femmes à l'âge adulte sur les scènes de musiques actuelles ?» Donc, du coup, on est remonté à l'enfance et on s'est posé la question au niveau au moment du choix de l'instrument, notamment, et est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et on a voulu travailler sur les trajectoires et les parcours de musiciennes de l'enfance à l'âge adulte. Moi, c'est des notions que j'avais déjà travaillées avant dans mes recherches, et du coup, c'est sûr que les trajectoires sont importantes et on comprend quand même pas mal de choses dans les parcours. Les résultats, ils ont dit qu'effectivement, il y a des instruments, des choix d'instruments qui sont très genrés, surtout dans les musiques actuelles. Moi, mon domaine de recherche, c'était quand même plus dans les musiques classiques. Donc, je découvrais pas non plus les musiques actuelles, mais dans un cadre scientifique, si, quand même. Du coup, les choix d'instruments sont quand même assez genrés. On retrouve évidemment, comme on retrouve sur les chiffres nationaux, les garçons à la batterie et les filles au chant ou au clavier, pour faire un peu... Enfin, c'est pas cliché, hein, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Après, nous, ce qu'on a observé, c'était dans les pratiques musicales. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les jeunes filles ont des pratiques collectives différentes que les garçons. Et déjà, c'est déjà quand même assez clair dès 14-15 ans. Par exemple, les filles préfèrent travailler de manière plus encadrée, donc c'est-à-dire sous forme de cours avec des professeurs, et que les garçons sont très vite dans une autonomie de groupe dans les musiques actuelles. Et du coup, ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, c'est là déjà que se façonnent des parcours, vu quand on sait que les musiques actuelles, c'est quand même des pratiques très, très autonomes, et souvent en marge des structures d'enseignement ou scolaires, etc. La Nef, elle a eu une place très importante, puisque la Nef accueille des cours tous les mercredis, enfin même pas que les mercredis, de plusieurs des conservatoires. Donc, c'est elle, en fait, qui était centrale dans cette étude. Après, on a rencontré d'autres structures, comme le Collège Jules Verne, qui a des classes à horaires aménagés musique, les classes CHAM, qui viennent aussi en partenariat, qui sont aussi en partenariat avec la Nef et qui font pas mal de projets, le lycée Gaz de Balzac, qui a l'option musique. Et après, on a travaillé avec d'autres salles de concerts comme les abattoirs, qui eux aussi ont un département d'apprentissage d'enseignement avec la Rock School. On a travaillé avec des associations et on a diffusé des questionnaires dans toutes ces structures. Donc ça, c'était pour la partie quantitative. Et la partie qualitative, on a interviewé 10 musiciennes sous forme d'entretien collectif, 2 entretiens collectifs avec 5 musiciennes à chaque fois. Et à la fin de l'année, moi, je vais continuer ma phase d'observation de tout ça sur la place des musiciennes, sur les actions qui sont mises en place et voir qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas, comment elles ressentent ces formations qu'elles vont suivre pendant un an. Donc il y aura un autre petit rapport au mois de juin.
Les observations sont nombreuses. Elles résident dans la pratique musicale qui reste très genrée. On retrouve aussi un problème de légitimité des femmes musiciennes et une déconstruction lente des parcours musicaux féminins. En plus d'apporter ces observations, l'étude des drôlesses musiciennes propose des actions et des recommandations. Pour en savoir plus, je vous invite vivement à vous renseigner sur le site de la Nef et de prendre connaissance de cette étude. Avant de poursuivre sur ce qui fait le charme de la ville d'Angoulême et de cette spécificité qui fait également le charme de la Nef, c'est le moment de la visite guidée sonore avec Juliette Devie, attachée à la communication et à l'image.
Salut la Halte, bienvenue à la Nef.
Alors on est où là? On est dehors, on est arrivé à la Nef, qu'est-ce qu'on voit devant nous?
Alors à la Nef, quand on arrive devant le bâtiment, on peut voir un bâtiment plutôt ancien en fait, mais mélangé à une partie plutôt moderne. Je vous explique, la Nef est une ancienne poudrière, donc on peut voir vraiment des pierres apparentes dans la partie sale en fait. Et toute l'extension qui a été faite en 2005 voilà, est plutôt moderne, pleine de vitres pour un espace plutôt lumineux. Et voilà, ça nous sert de, toute cette partie-là nous sert de hall, de bar. On y met aussi nos bureaux. Voilà.
On va aller à l'intérieur pour visiter, mais on voit aussi qu'il y a le rouge qui est assez prédominant sur cette ancienne poudrière.
Oui, c'est ça. Le rouge des salles de musique actuelles, en fait, on n'a pas repeint les volets. Mais par contre, toute la peinture rouge à l'intérieur du bâtiment voilà, a été recouverte de noir. On est repassé au noir. Là, je vous fais rentrer par la partie pour monter en fait, à l'accueil des studios. Donc quand on arrive, il y a un escalier qui monte tout en haut à l'accueil des studios, car on a des studios de répétition à la Nef. Donc on peut, on demande Charlie, Gaëtan ou Arthur ou Benjamin, notre nouveau service civique, pour réserver son petit studio de répétition. Mais aussi, de cette entrée, on peut accéder au hall. Est-ce qu'on on va au hall?
Allez, on va dans le hall.
Alors, dans ce hall, on peut avoir accès du coup à la salle. On a deux portes d'entrée à la salle. Et on accueille aussi dans ce hall pas mal d'expositions. Voilà, on a de la place d'accueillir, d'accrocher des cadres, des expositions. Et actuellement, on a une exposition du Croquis Picture Show, qui est notre collectif de dessinateurs et dessinatrices, qui vient dessiner ou croquer plutôt les concerts.
Et alors à notre droite, en face de nous déjà, on a un grand, une espèce de panneau de bois avec le logo de la Nef.
C'est ça, un panneau de bois avec le logo de la Nef qui cache en fait, on a un renfoncement qui nous sert de cabine DJ. On appelle ça de cabine DJ, mais c'est aussi le bureau de Fanny, notre chargée de catering. Voilà, on essaye de trouver de l'espace où on peut. Mais voilà, dedans, ça a servi il y a quelques temps. Voilà, quand on fait des soirées, il y a un système son en fait, c'est ce qui gère, c'est vraiment l'endroit où on peut voilà, brancher la sono dans le hall et gérer les lumières aussi.
Et à notre droite, on a la fameuse salle de concert qui a apparemment un bon son.
C'est ça, voilà, elle a un bon son, je pense qu'on vous allez en entendre parler dans ce podcast. Mais oui, qui a un bon son et pourtant c'est un bâtiment super ancien.
On y va là? Ouais, allez. Ah bah là on voit plein de chaises puisque demain arrive le RIM.
C'est ça, on a la journée de concertation territoriale, si je ne me trompe pas dans les termes un peu spéciaux. Voilà. Et on va les accueillir toute la journée à la Nef. On attend une centaine de personnes et il va y avoir des ateliers dans le hall, dans la salle. Donc là, on a tout préparé. Et c'est vrai que ça fait une salle, voilà, ça va faire une salle bien remplie demain. Et alors, quand on rentre dans cette salle, pour vous la décrire... En gros, y a une scène, je pense, comme dans toutes les salles. On a une grande boule à facettes qui surplombe la salle. Une passerelle sur le côté droit de la salle.
Qui permet de descendre à la scène.
C'est ça, ça permet de descendre à la scène, d'avoir accès aux loges. C'est plutôt un bon spot pour les dessinateurs et dessinatrices et photographes pour nous aussi d'équipe, parce qu'on en profite quand même, c'est important. Et voilà, on accroche aussi des affiches de concerts, de nos prochains concerts en fait ici. Ça permet voilà, au public, quand il rentre dans la salle, vraiment de, voilà, de visualiser nos prochains concerts. C'est plutôt cool comme ça.
En mode linge qui sèche.
C'est ça, voilà, c'est ça, vraiment, avec des pinces à linge, c'est parfait. En bois, ça fait très... voilà. Mais c'est DIY, c'est un peu aussi dans l'esprit de la nef en fait.
Et on a des vitrines avec guitare, une sono, mais bientôt il va y avoir autre chose à cette place-là.
C'est ça, donc c'est des vitrines où normalement on mettait des instruments dedans. Enfin, c'est vrai qu'il y a longtemps, je ne sais pas trop ce qui s'exposait dedans, mais bon, voilà. Et sur Bizou, donc notre temps fort de musique et images en novembre, nous allons redécorer ces vitrines un peu en mode vitraux d'église sur le thème du bisou aux couleurs de saison. Donc voilà, venez sur Bizou pour découvrir, ces belles créations qu'on va mettre en avant. Voilà, ça va être plutôt cool. Alors là, on est sorti de la salle et on se trouve devant le bar. Alors j'espère que, comme il fait un petit peu de bruit avec tous les frigos derrière, j'espère que ça va pas être trop embêtant sur l'enregistrement. Mais voilà, on est au niveau du bar, plutôt un grand bar en bois. Qu'on va agrandir sur un autre projet de rénovation. Mais là, je m'égare. Voilà, avec donc grand bar, avec une tireuse au milieu. Et derrière, on a pas mal de cadres aussi, donc des cadres du Croquis Picture Show, et on a aussi des portraits d'artistes qui sont venus ici l'année dernière surtout. Donc voilà, toujours pareil, dans un but de mettre en avant le Croquis Picture Show et tous nos projets autour de l'image.
Est-ce que c'est ça en fait, le lieu a vraiment une spécificité qui est autour de l'image, alors liée à la ville évidemment, mais on a aussi la boutique qui fait vraiment ce lien.
Bien sûr, est-ce qu'on y va du coup ? Allez, on y va, c'est parti. Alors, bienvenue dans Boom, la boutique qui est juste en face du bar en fait. Donc c'est une boutique où on vend... Bah, pas mal de prints, d'illustrations, d'artistes locaux, même si on a des artistes plutôt aussi nationaux, voilà, enfin, d'autres studios ou quoi. Mais on est quand même beaucoup sur du local, essentiellement, voilà, parce que c'est vrai qu'on manque pas de dessinateurs, dessinatrices, auteurs, autrices, et donc c'est une boutique, il y a une banquette sur la gauche, avec des coussins. Avec nos petites punchlines à nous, par exemple. Bon, là, il faudrait les lire, en fait, mais comme il y a trop de gens qui twerkent, voilà, on aime bien rigoler ici. On vend aussi des vinyles et CD. Alors, ça vient du rayon du RIM, du réseau des indépendants de la musique, qui, en fait, ont rassemblé tous les CD et vinyles des labels de Nouvelle-Aquitaine, qui bossent en tout cas avec le RIM, pour justement le distribuer dans de nouveaux lieux, donc disquaires, et lieux comme nous, par exemple, la Nef, qui avons une boutique et qui pouvons en fait vendre tout ça. On a aussi nos sérigraphies, les sérigraphies faites par la Nef, dans un projet qu'on avait avant le confinement, parce qu'après, enfin vous comprendrez, mais le confinement et le Covid, ça a eu raison de ce projet, mais ça s'appelle le projet 7 3 quarts, donc on sortait 7 sérigraphies sur une saison, sur 7 concerts différents, avec 7 artistes différents, et c'est des sérigraphies qu'on a en partie animées sur une application qu'on a fait développer, c'est plutôt un chouette projet que vous pouvez découvrir sur notre site internet, ou même venir nous voir directement, et on vous montrera comment ça se passe.
Et puis, juste en face de l'endroit où on vient acheter ces sérigraphies, c'est-à-dire le comptoir, on voit un grand mur illustré.
Oui, c'est ça. En fait, on fait faire ces murs-là par des artistes locaux. Alors, normalement, on essayait de le changer chaque année aux couleurs de saison. Là, il faut qu'on le refasse parce que c'est une fresque qu'on avait faite avant le confinement, mais qui n'avait pas pu être vraiment vue par le public. Mais donc on est sur des couleurs de saison anciennes, pas celles de l'année dernière, celles de l'année encore d'avant. Mais voilà, ça a été une illustration faite par Agathe Bascou, avec qui on a pas mal travaillé, qui gravite aussi autour de la nef. Et voilà, elle a fait tout ça à la main. On lui a mis un projecteur et voilà, il a peint par-dessus et c'est plutôt chouette.
Carrément, c'est hyper beau. En tout cas, ça donne envie d'aller plus loin et d'acheter quelques sérigraphies, quelques illustrations.
Alors là, on se trouve du coup à la borne d'accueil. Donc à cette borne d'accueil, on peut voir tous les tarifs. Par exemple, si on veut racheter des cordes, un médiator ou même les tarifs de la répétition. Voilà. Il y a un petit coin de répétition avec des canapés et des petits prospectus qui viennent d'autres salles aussi, parce qu'on met aussi en avant nos partenaires. Et avec un mur aussi d'affichage, avec des concerts et des ateliers aussi, des studios. Voilà ce qu'on peut y voir au niveau de cet étage. On voit aussi sur l'autre mur, en face, plein d'illustrations de la boutique qu'on vend en fait. Et comme ça, ça permet aussi aux usagers des studios de savoir qu'on a aussi ce travail autour de l'image. Et parce que comme la boutique est ouverte que les soirs de concert et qu'ils ne peuvent donc pas y avoir accès quand ils viennent répéter, on leur amène, on va dire.
Et après, on a du coup les studios de répétition. On en a quelques-uns. Il y en a combien au total ?
Alors, il y a 4 studios de répétition avec un studio d'enregistrement, voilà, tenu par Étienne Joanneau. Et voilà, on accueille pas mal de groupes. Alors, en répétition, c'est souvent... on a vraiment pas mal de groupes, en fait, qui viennent répéter. J'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, attendez, je peux même les trouver. Charlie, on a combien de groupes qui viennent répéter ? Voilà, plus d'une centaine, 150, 120, ça dépend des saisons. Donc voilà, et puis tout ce qui est les groupes qui viennent enregistrer, c'est plus de la pré-prod, des artistes du coin, mais on ne fait pas vraiment d'enregistrement nous. On ne fait pas d'enregistrement d'album, on va dire. C'est vraiment surtout de la pré-prod.
Et après, donc, vous avez vos bureaux et ça mène vers les loges.
C'est ça. Vers les loges qu'on a refaites pendant le confinement, en fait. Voilà, on en a profité aussi pour refaire toute la déco, comme les peintures, on a enlevé le rouge. Vraiment, c'était une remise à neuf de la nef. Et voilà.
Super, merci. On connaît tous Angoulême pour son événement incontournable, le Festival international de la BD. Ce festival de renom place Angoulême comme la ville de l'image et de l'illustration par excellence. La Nef, elle aussi, a su parfaitement surfer sur cette pratique. Avec par exemple le projet 7/3/4 qui propose à 7 artistes d'illustrer 7 concerts de la saison avec une contrainte de 3 couleurs et une carte blanche totale sur la création. Et ça donne des petites merveilles et le tout bien évidemment sérigraphié avec talent. On pense aussi à ce superbe collectif, le Croquis Picture Show, qui est une invitation faite aux illustrateurs et dessinateurs d'Angoulême de croquer les concerts de la Nef. Et puis, évidemment, on l'a entendu dans notre visite guidée sonore, la boutique Boom de la Nef, où on le retrouve des tonnes de bijoux illustrés en sérigraphie, en carte postale et même sur des coussins. Pour nous parler de ça, ce sont Mathilde Routart et Timothée Maurice, illustratrices et illustrateurs, qui sont venus nous parler des différents projets qui mêlent musique et illustration à la Nef.
Enfin, en gros, je participe au collectif qui s'appelle le Croquis Picture Show, dont Tim fait aussi partie. Il en parlera aussi un petit peu. Je m'occupe aussi donc, de la photographie de concert, de faire aussi ce qu'on appelle le photomaton. Donc, c'est-à-dire que des fois, en fait, sur certaines dates de concert, certains dessinateurs, dessinatrices sont amenés à se mettre dans une petite boîte où les gens sont invités à rentrer. Et en fait, ils pensent se faire tirer le portrait en mode photomaton. Et en fait, non, c'est un faux tomaton. Où en fait on dessine les gens. Donc je fais plein de trucs, je m'occupe aussi un petit peu de la diffusion de la Nef. Enfin, là je l'ai fait pour la première fois il y a quelques jours, où on doit aller dans différents villages et parler de la programmation, des concerts à venir, ce genre de choses. Et là bientôt je vais monter une petite exposition autour d'un clip des Liminianas, qui s'appelle, donc le clip s'appelle Kekalor, parce que j'ai travaillé dessus il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, avec donc toute une équipe
toute une équipe d'animateurs. Et comme les Liminianas passent à la nef dans le 27 octobre, si je dis pas de bêtises, bah du coup, en fait, avec Juliette, on s'est dit, mais attends, mais ce serait trop bien de... Enfin, vu que t'as bossé sur le clip, bah en fait, autant faire une expo et raconter comment on en vient à créer un clip. Et du coup, je suis en train de monter la petite expo, là, comme ça, donc... On va dire que j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc ici.
Moi, j'avais commencé par faire en fait les visuels de saison, donc les images liées à la nef qui diffusent un peu partout en ville, ce qui illustre les mois, en fait, les saisons à la nef. Donc il y avait trois illustrations à faire. J'ai eu la chance de le faire 2 ans. Normalement, ils changent d'illustrateur tous les ans, mais avec le Covid et tout, ils n'avaient pas pu exploiter tout comme ils voulaient, donc ils avaient fait appel à moi, c'était très cool. Et donc j'avais mis la tête dans la nef grâce à ça, quoi. Le nez, la tête, je sais pas, n'importe quoi. Et puis de fil en aiguille, ouais, il y a eu le croquis picture show, donc aussi Juliette m'avait proposé de le faire. Et moi, je faisais pas mal de croquis déjà de mon côté, j'adorais dessiner les musiciens. Et en plus, j'étais dans une période où j'avais plus trop de patience, je faisais de la BD à la base, et j'avais presque envie de tout arrêter un moment, et de faire du croquis, en fait, ça m'avait un peu remis dans le dessin d'une autre façon, quoi. On se prend un peu moins la tête, on est plus libéré, on va dire, tout se passe vite. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre à la nef? Pas mal de choses. J'avais aussi été appelé pour faire une BD en résidence. Enfin, il y avait le groupe Slift en résidence, qui est un groupe de rock. Et j'avais eu la chance de faire une journée avec eux et j'ai pu faire une BD à ce sujet qui devrait être dévoilée prochainement.
Alors, le Croquis Picture Show, c'est en gros... donc, la nef propose à des dessinateurs et dessinatrices de venir dessiner pendant les concerts. Donc en fait, il faut imaginer une salle de concert avec des petites passerelles et un petit balcon pour tout ce qui est équipe technique, tout ça. Et nous, donc, on a le droit d'aller sur ces passerelles. Et du coup, ça nous fait une super vue sur le concert. Et du coup, on dessine ce qu'on voit, l'ambiance, tout ça. Et donc c'est... En fait, on dessine ce qu'on veut. On n'a pas vraiment de règlement. On laisse libre cours à notre imagination et... Enfin, personnellement, je trouve ça cool parce que ça nous permet de découvrir des concerts auxquels on ne serait pas forcément allé, en fait. Enfin, je sais que j'ai découvert mais un nombre d'artistes... Enfin, je fais ça depuis un an et ma playlist Spotify a explosé depuis. Et puis, enfin, c'est cool parce qu'aussi, pour les artistes, ça leur fait un petit... Enfin, je pense pas qu'ils aient l'habitude d'avoir des dessins d'eux, en fait, tout ça. Donc, je trouve que c'est bénef pour tout le monde, en fait. Aussi, moi, j'ai commencé le Croquis Picture Show, j'étais encore étudiante et... mine de rien, ça fait quand même un tout petit peu de visibilité. Et ça, c'est super cool. Puis comme je disais précédemment aussi, ça nous permet de découvrir des groupes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et aussi de voir des groupes qu'on adore et qu'on admire. Là, par exemple, dans quelques jours, je vais dessiner et photographier des artistes que j'aime énormément. Vitalik, Tilassine, tout ça. Et c'est des artistes que j'écoute depuis très longtemps. Et me dire que je vais avoir l'opportunité de... Les dessiner, les photographier, ça me rend super, super fière. Et voilà.
C'est forcément chouette en tant qu'illustrateur. Et en plus, moi qui adore la musique, en fait, j'ai toujours voulu lier mes dessins et musique. Donc j'étais hyper content en fait, d'arriver là, que finalement on me propose tout ça. Et après, oui, c'est effectivement chouette. Et je pense qu'il y a encore plein de projets qui vont se mettre en œuvre.
Mathilde et Timothée travaillent étroitement avec la Nef, tout comme Noé qui lui aussi est accompagné dans son projet musical. La Nef est donc aussi un lieu d'accompagnement des pratiques musicales, notamment avec ses locaux de répétition tout confort, mais aussi avec la création en 2018 du booster d'ambition musicale qui permet des accompagnements personnalisés dont va nous parler Noé Ouran, musicien, et Arthur Rosato, chargé de production et régisseur studio qui nous parle des ateliers de pratiques musicales.
Salut, je m'appelle Noé, je suis musicien, je fais partie d'un groupe, d'un collectif, et puis après je fais de la composition en règle générale aussi pour de l'image, des choses comme ça. Je joue dans le groupe Soswin, c'est un groupe du coup de musique électronique, douce, un peu jazz, et je suis partie du collectif L'Enfant Sauvage, un collectif de DJ où on fait aussi des scénographies en bois. Tous les musiciens se retrouvent ici au final, ils nous font beaucoup jouer aussi, et ils nous proposent plein de projets, et en fait c'est vraiment un énorme soutien pour toute la scène musicale du coin. Alors, l'accompagnement de la Nef, du coup, c'est un accompagnement au niveau de l'administratif, déjà un peu. Ça peut être aussi, du coup, des résidences. Ça peut être aussi un suivi humain. C'est, en vrai, d'abord, j'ai envie de dire, déjà, c'est un truc où il y a des gens qui te soutiennent dans ton projet. Du coup, déjà, tu te sens plus à l'aise et plus, j'ai pas le mot, mais ça met en confiance, voilà. Déjà. Et après ça, si tu as besoin de détails techniques, par exemple auprès d'un ingé son, ou si tu as besoin de savoir comment trouver des dates, ou il y a tous ces, petits accompagnements là qui se font. Et maintenant cette année ça change encore un peu. Ils ont mis en place un accompagnement avec aussi une personne qui fait partie de Lagon Noir, s'appelle Ophélie. Et elle du coup, avec quelqu'un d'année qui s'appelle Charlie, ils font des rendez-vous avec nous. On voit différents éléments de la vie professionnelle de musicien. Et en fait, parfois quand t'es... Enfin, avant moi, avec mon autre groupe, par exemple, j'avais des gens qui nous accompagnaient, qui nous allaient tourner, tout ça. Mais là, avec mon nouveau groupe, vu que c'est le début, je suis obligé de le faire tout seul. Et je sais pas faire, et du coup, je suis content d'avoir des gens qui m'apprennent, quoi. Alors, Sousouine, on peut retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, Bandcamp, Spotify, tout partout. Et après, pour l'enfant sauvage, on peut trouver sur SoundCloud pour écouter et pour voir et regarder les vidéos, tout ça, on peut trouver sur Instagram surtout.
Alors en fait, une fois par mois, on propose un atelier qui soit de la pratique musicale. C'est-à-dire par exemple, là en octobre, on a un atelier sur la polyrythmie avec un batteur, Mathieu Gazot, qui est notamment batteur de Mars Red Sky. Et ça peut être aussi sinon des ateliers sur le développement de projets. Par exemple, on a fait un atelier avec Lagon Noir, qui est une boîte de booking management. Donc avec Ophélie RR qui a présenté un peu son métier et puis un peu la stratégie qu'un groupe peut développer autour de sa tournée. Donc ça c'est une fois par mois tout au long de la saison, on en a donc trois par trimestre. Dans les groupes qui sont accompagnés par la NEF qui répètent ici, il y a Chasing Foxes d'ailleurs qui viennent ce soir au moment où on discute. Il y a Purs aussi. Après des groupes qui sont... Je peux te donner des groupes aussi qui sont venus des studios à la base. Enfin, je pense à un, notamment Lehman Brothers. Je te parlais de Tremplin des lycées, tout ça. C'est un groupe qui s'est créé au lycée, qui est passé par la NEF, qui a été accompagné par la NEF il y a quelques années et qui aujourd'hui, du coup, est complètement professionnel. Ils ont tous même des projets à côté. Il y a le chanteur qui a un projet qui s'appelle Glad, le guitariste Alvin Meizo qui a son projet à lui, le batteur qui a un projet qui s'appelle Meul. Enfin, donc il y a tous un peu ce petit monde-là. Après, il y en a plein des groupes, donc je pourrais pas tout citer, mais ouais, non, il y a une belle dynamique.
J'ai également eu la chance de rencontrer des membres du comité d'usagers qui s'intitule La Poudrière et qui représente une forme un peu différente du bénévolat qu'on connaît habituellement. J'ai trouvé d'ailleurs cette forme très intéressante. La Poudrière rassemble des spectateurs et spectatrices, musiciens et musiciennes, et partenaires de projets, afin de discuter 3 à 4 fois par an avec l'équipe salariée des projets en cours et à venir, des tarifs et des relations avec les projets locaux. En plus, l'un des représentants de La Poudrière est nommé au conseil d'administration afin de faire entendre leur voix auprès des partenaires publics.
Oui, donc La Poudrière, on n'a pas été chercher très loin le nom. Et du coup, c'est un collectif d'usagers, donc de gens qui viennent aussi bien en tant que musiciens pour les studios ou pour les concerts, de tout horizon professionnel. Voilà. Et on aide sur les actions qui sont prises par le conseil d'administration et par l'équipe de la NEF. Alors la NEF fait partie du Grand Angoulême, qui est géré aussi donc avec un conseil d'administration dont je fais partie sur la prise de décision dessus. Et cela permet d'avoir un regard autre que les salariés et du conseil d'administration. Et pour savoir si les décisions et si les projets restent en cohérence avec leurs projets culturels.
On se retrouve donc à la NEF pour une expérience.
Waouh.
Ouais, bonne humeur.
Et du coup, moi je dirais lumineux.
Cool ou fun, ça, c'est à peu près pareil.
Donc ouais, création.
Bah, éclectisme.
Et ouvert.
fourmilière.
Parce que tout le monde n'ose pas forcément des fois pousser les portes d'une SMAC parce que bah, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas les codes ou est-ce que la musique, c'est quand même assez indé et aussi en découverte. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on entend à la radio. Donc du coup, il faut oser parfois et j'aurais envie de dire aux gens, mais oser pousser la porte de la nef et venir découvrir un concert.
Et d'ailleurs, Alexandra a même une idée pour faire venir du monde. Et j'étais carrément séduite par son idée. Alors si ça vous plaît, à vous de jouer en vous en inspirant.
Moi, je vais juste ajouter pour faire venir les gens régulièrement. Bah, j'achète deux places. Quand j'achète une place pour moi, j'en achète une deuxième. Et je ne sais pas avec qui j'irai, mais je finis toujours par la proposer par quelqu'un et pour faire découvrir. Parce que bah, des fois, je les prends peut-être 6 mois avant et je ne sais pas qui c'est qui sera dispo à ce moment-là. Donc, la petite quinzaine avant, bah, tu fais quoi? Tu veux venir? Tu veux découvrir? Et j'ai fait venir des gens qui n'avaient jamais mis les pieds ici et qui sont très contents et enchantés du lieu, quoi.
C'est une bonne idée, ça, en fait.
Sont-ils revenus?
Oui.
C'est là, vous faites les questions-réponses, j'adore. bah voilà, ça c'est une idée. Il faudrait que tout le monde fasse ça, achète deux places. Et comme ça, on la propose à quelqu'un, même peut-être qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs.
Alors, ça m'est arrivé parce que avant, donc, j'étais disquaire et les maisons de disques me donnaient des invitations. Et il y a des fois où, sans connaître les gens, alors soit en premier, je le proposais à mon entourage, ou quand j'avais personne qui était dispo ou que ça intéressait personne, je me mettais devant. Vous achetez vos places ce soir? Oui, venez avec moi, je vous en offre deux. Et puis voilà. Et des fois, je fais des rencontres, des amitiés qui se sont créées, des personnes après que j'ai jamais revues, mais c'est pas grave, voilà.
Merci d'avoir écouté ce 6e épisode de La Halte. Le tour en Nouvelle-Aquitaine est presque terminé puisqu'il ne reste plus que 2 lieux, les Vivres de l'Art à Bordeaux et la Forge Moderne à Pau. Après la Nouvelle-Aquitaine, direction l'Occitanie. Un grand merci à la Nef pour son accueil. Merci à Noé Oran pour la musique de son groupe Sauswin et son titre It's Snowing in the Open Sea. On se retrouve maintenant dans 2 semaines pour un nouvel épisode et cette fois-ci à Bordeaux aux Vivres de l'Art. Et si la question autour de l'étude des drôlesses musiciennes vous intéresse, n'hésitez pas à m'en informer, la Halte pourrait proposer un hors-série spécial pour en connaître davantage sur cette étude, afin d'entendre celles qui se battent pour faire changer les choses. Je profite aussi de la fin de cet épisode pour vous dire également qu'un fanzine sur ce Tour de France et la visite de tous ces lieux est en cours et que ça sera également l'occasion de découvrir le travail de certains artistes croisés sur mon chemin, et notamment le sublime travail de Mathilde Routard qu'on entendait dans cet épisode. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant Quartier Libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
Si vous aimez,
suivez-nous,
likez,
partagez
et faites-nous vos retours.